Il est présentement 13h35. Vous êtes à l'écoute de l'émission On en jase. Pascal CV, toi, t'avais un prof dans le temps qui était vraiment cool. Hein?
Un prof dans la cause. Ouais, c'est ça, c'est le vin dans la cause qui faisait pogner le feu sur son crâne en chimie.
Hein? C'est une machine de guerre. Puis là, prof dans la cause, justement, c'est drôle parce qu'il vient de m'écrire pour me dire « Hey, je vous écoutais, puis vous parliez de la campagne électorale, puis je suis allé voter par anticipation. » Bon, je
commence... Comment ça a été?
Je commencerai pas à dire pour qui le prof dans la cause a voté, mais il m'a juste dit « Ouf! » Quelle campagne trop longue et lamentable. Il a complètement raison.
Ah oui, c'est une campagne qui se meurt. Ouais. Je veux dire, on veut encore suivre les points chauds, puis on vient qu'à être tannés nous-mêmes.
Mais c'est ça. Mais là, on va entendre le prof dans la cause à soir parce que c'est son deuxième podcast de sa série de 5 classes à part.
Hey, honnêtement, là, c'est pas parce qu'on l'apprécie. À la base, c'est vraiment un bon podcast.
Vraiment.
C'est une heure extrêmement pertinente sur l'éducation en général. Chaque semaine, à 19h le lundi, on explore les grands enjeux de l'éducation d'aujourd'hui et demain. Puis moi, je trouve ça le fun parce qu'on a des grands invités aussi. Et pour le deuxième épisode, c'est la gestion des comportements à l'école.
Wow.
Tu sais, on parle souvent des parents là, qui se mènent un peu en porte-étendard leur enfant roi et tout ça. Est-ce qu'on a encore le plein potentiel enseignant pour la gestion de la classe, pour être capable de gérer les comportements? Comment ça se passe directement dans l'établissement scolaire? Et il parle avec Karine Hamel, qui est psycho-éducatrice. Donc, nous, on a eu la chance de l'écouter avant qu'il soit diffusé ce soir. C'est sur les conséquences possibles, les rôles de l'équipe école, les intervenants communautaires, les mesures adaptées pour certains jeunes, le lien école-famille. C'est vraiment un genre de rassemblement qu'on a collectif sur les ondes de Boulevard 102.1 sans que ça soit plate dans les réunions de parents.
Ah, que ça va être intéressant. Donc, écoutez ça, 19h, prof dans cause ce soir sur nos ondes.
Et merci à la Caisse des Jardins de l'Éducation qui nous accompagne dans tout ça avec constance, engagement. C'est grâce à eux qu'on est capable de vous offrir le podcast.
Évidemment. Un grand merci à ce commanditaire. En ligne, on a Gilles Levasseur, professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa. Monsieur Levasseur, comment allez-vous? Monsieur Levasseur, êtes-vous là? Est-ce qu'on a un petit problème technique?
Je te laisse peut-être regarder ça.
Ouais, veux-tu me faire quelques news? Exactement. Je vais tenter de le rappeler.
Oui, je vais faire le portrait de l'actualité de cet après-midi. Beaucoup de choses quand même à gérer. Entre autres, les déclarations de Doug Ford qui irritent Washington depuis des mois. C'est ce que relèvent des sources. Alors, Mark Carney qui affirme que les pourparlers qui progressaient jusqu'à la diffusion de la publicité ontarienne, qui a été l'épine dans le pied du Canada officiellement, est vraiment problématique. Donc, il y a des responsables canadiens qui ont affirmé avoir été pris de court la semaine dernière quand le président américain Donald Trump a annoncé qu'il mettait fin aux négociations commerciales avec le Canada. Négociations qui étaient fort difficiles à prime abord, mais avec l'attitude provocatrice du premier ministre Doug Ford, qu'on décrit avec des propos virulents à l'endroit de Trump, bien, ça a constitué à faire en sorte que tout le pays en souffre maintenant. Source d'irritation depuis un moment du côté de Washington, selon des sources de Radio-Canada. Alors, il y a des gens qui sont au fait des discussions qui ont révélé que les Américains avaient averti les Canadiens depuis un bout que les commentaires du premier ministre de l'Ontario allaient poser problème et allaient probablement nuire. Et c'est le cas. Quand on voit que le pays doit être soudé des fois dans des portions économiques difficiles comme celle-là, eh bien, il faut en prendre en compte ce que Doug Ford faisait. Sinon, du côté de Longueuil, c'est un cas extrêmement tragique dont on parle depuis le début de la journée. Un nouveau-né qui est décédé officiellement après avoir été abandonné dans un abribus. Donc, il y a une femme de 33 ans qui a été arrêté. Le dossier progresse. C'est une personne d'intérêt qui a été arrêtée en lien avec cet abandon de nouveau-né. On a confirmé ça du côté de la police de Longueuil. Il s'agit du deuxième cas d'abandon d'enfant en l'espace de seulement 3 semaines dans le même secteur. Alors, il aurait été retrouvé malheureusement ce matin, rendu l'homme à l'hôpital. Et cette femme de 33 ans-là a été interpellée, arrêtée, c'est ce qu'on a indiqué comme porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Quand je vous dis que ça progresse, c'est que c'est à 6h30 là, qu'on a reçu un appel d'urgence. Et rapidement, là, on est capable de vous dire que malheureusement, le poupon est décédé. On a arrêté quelqu'un. Il y a eu, oui, manœuvre des réanimations, mais je vous le dis, c'est une histoire qui donne froid dans le dos. On n'a pas de comparution encore prévue pour l'instant parce que le drame a d'abord nécessité des soins physiques et psychologiques.
On a M. Levasseur au bout du fil. Pascal, M. Levasseur, comment allez-vous?
Bien, merci, vous.
Ben, ça va super bien. Monsieur Levasseur, est-ce que Donald Trump attendait juste un bon moment pour dire « Qu'est mon Canada, v'là 10 % de plus et on négocie plus » ou c'est Doug Ford qui lui a donné ce cadeau-là dans
ouais,
les mains?
C'est une histoire de comme les drogues à la frontière.
C'est ça, comme
ou
le fentanyl ou c'est réel?
Mais disons que ce qui arrive, c'est que Monsieur Trump a pris l'occasion pour faire passer un message tant aux Canadiens qu'aux autres pays qui veulent faire la même chose. Ce qui arrive, c'est que Carney était proche d'une entente. Vous savez, on réalise pas, là, mais ça se négociait, ça aurait été fait d'ici une ou deux semaines, l'entente. Mais en jouant ce jeu-là, de mettre de la publicité, qui fait juste irriter une personne qui aime pas se faire mettre de côté ou se faire planter là par les médias, ben ça l'a amené cette réaction-là. Et le danger, c'est que ça va prendre peut-être 3-4 mois avant de repartir et de compléter la transaction. Puis c'est ça qui est triste, parce qu'on était bien parti. C'est fait là de façon à ne pas créer de turbulence. Puis c'est ça que la publicité a fait. Elle a créé ce mouvement-là qui fait en sorte que le type n'est pas capable d'en prendre et qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il réagit très mal.
Malgré tout ça, on se demande encore si c'est réellement quelque chose qui a créé de la turbulence chez lui à un point où c'est dit « Ah, oh, c'est assez de négociations avec le Canada ». Par contre, on apprend dans les dernières minutes du côté de Radio-Canada que ça fait un bout là, qu'il est irrité, en fait, des propos de Doug Ford. Est-ce que à ce moment-là, on peut se dire que le pays est cop pour un premier ministre? Est-ce qu'on doit plutôt se rallier de province en province quand ça arrive, ce genre de truc-là?
Mais ce qui arrive, c'est qu'au départ, Doug Ford voulait avoir une approche sévère contre les Américains. Mm-hmm. Parce que l'Ontario est très blessé par toute la question des tarifs. Vous savez, là, on réalise pas, mais ils perdent des usines. Ils perdent accès à plein de projets. Il y a plein d'entreprises qui ont décidé de quitter l'Ontario pour retourner aux États-Unis. Donc, l'Ontario va vraiment vivre la difficulté de toute cette histoire-là, ce sont là des tarifs. Donc, lui a réagi dans une démarche, quoi, que c'est celle de dire on va aller avec les gants de boxe pour être capable de faire passer le message. Le problème, c'est qu'en jouant ce jeu-là, c'est toutes les autres provinces canadiennes, dont le Québec, qui vont écoper pour ce genre de discussion-là. Et le problème, c'est que M. Trump, c'est un type qui ne pardonne pas. Ça, ça fait partie de son style. Il va avoir bientôt un livre qui va sortir sur la relation Trump et son vice-président. Et il le traitait de terme wimp. Puis tous les termes à gauche et à droite, parce que le gars ne voulait pas suivre Trump. Et c'est ça qui arrive. Ce gars-là n'a aucune acceptation de gens qui y vont contraire à ses valeurs. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour ça que Carney a bien saisi le dossier. Il disait, on va faire ça tranquillement, sans aucune publicité, sans aucune discussion. On garde ça secret. Comme ça, quand ça va être le temps, c'est M. Trump qui va être celui qui va annoncer le résultat et pas juste M. Carney.
Maintenant, comment Mark Carney doit gérer Doug Ford après cet événement? Est-ce qu'il doit complètement mettre Ford à l'écart et s'assurer que ce dernier ne prenne plus la parole publiquement concernant cette guerre tarifaire?
Parce qu'il ne peut pas contrôler les comportements de Doug Ford. Mais ce qui arrive, c'est que dans la négociation, il pourrait favoriser une province comme le Québec, par exemple, ou une autre province comme l'Alberta, au détriment de l'Ontario, si Doug Ford continue à jouer ce jeu-là. Parce qu'à un moment donné, on veut avoir une entente. Donc, on veut avoir...
Ouais, donc, il a beaucoup protégé le secteur automobile, mais là, il pourrait tenter de protéger l'aluminium ou le pétrole.
Exactement, ou l'acier. Vous comprenez? Donc là, on va se dire, ben, qu'est-ce qui est raisonnable puis qu'est-ce qui est acceptable? Et c'est ça le danger. Parce que, voyez-vous, l'Ontario a toujours dominé l'infrastructure de la voiture au Canada. 95% de tout ce qui s'appelle voiture, c'est l'Ontario qui l'a. Donc là, ils viennent de perdre des gros jalons de leur industrie. Puis si les Américains le font, ben, les autres entreprises, comme par exemple les Japonais, comme les Allemands, vont suivre la même démarche et c'est ça qu'il veut pas. Donc, il essaie de faire un discours de crainte, de peur, pour démontrer que, bref, c'est la bonne chose de rester au Canada. Mais en faisant cela, on irrite quelqu'un, puis là, ben là, M. Carney va dire, écoutez, on va travailler avec des relations, par exemple, le pétrole, le pipeline. On va travailler, par exemple, tous les arrangements, par exemple, des produits, par exemple, laitiers. On est capable de faire des arrangements qui vont faire, ça va faire plaisir à M. Trump. C'est ça qu'il faut faire. Il faut, c'est triste à dire, mais jouer dans sa main pour être capable d'avoir ce qu'on veut.
OK, on est vraiment rendu là selon vous, M. Levasseur. T'sais, vous êtes professeur en gestion en droit à l'Université d'Ottawa. Vous êtes vraiment rendu à vous dire, puis ça, écoute, on adhère si c'est votre façon de voir les choses, mais faut y manger dans la main parce que peu importe ce qu'on va faire, ce gars-là, c'est pas de lui montrer qu'on se tient droit, qu'il va faire en sorte qu'il va être conquis par nous pour vouloir discuter avec nous. C'est vraiment y aller en son sens.
Mais il y a une chose que je voulais juste vous dire. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un des rédacteurs de la première entente de libre-échange Canada-États-Unis. Et moi, je m'occupais du volet énergie. Et à l'époque, il y avait toutes sortes de règles qui limitaient l'accès au secteur pétrolier canadien. C'était toute la question de Pétro-Canada, toute cette notion-là de la notion de prendre domaine du Canada, parce qu'il y avait toutes les compagnies étrangères qui faisaient de l'exploration, de l'exploitation et la vente de pétrole, mais bref, les Canadiens n'avaient rien. Alors, on avait développé cette approche-là. Mais quand est venu l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, à l'époque, c'était Brian Mulroney, avec le président américain qui a fait partie de la publicité, d'accord? Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les Américains ont dit, on est prêt à accepter chez vous que vous allez avoir un tribunal qui va gérer tout le conflit entre le Canada et les États-Unis, plutôt que d'aller devant les tribunaux. Mais en échange, voici ce que l'on veut. Et une des choses, c'était la libre ouverture de l'énergie. Donc, si on prend l'accord de libre-échange de 1987, ça a juste une page, l'entente, une page, parce qu'on a tout enlevé pour satisfaire ce volet-là américain pour avoir accès aux tribunaux qui règlent les conflits entre le Canada et les États-Unis. Donc, il faut jouer la même chose aujourd'hui, il faut faire la même chose, mais en fonction des dossiers d'aujourd'hui. Ça ne changera pas parce que les Américains à la table, ils arrivent, ils sont déjà tous préparés, ils sont armés pour gagner. Alors, toi, tu joues le jeu de savoir qu'est-ce que tu dois leur donner pour être capable d'aller chercher ce que toi, tu as besoin.
Alors, est-ce que vous voyez une similitude entre l'approche Mark Carney et l'approche Brian Mulroney qu'il avait à l'époque avec Ronald Reagan?
La réponse est oui. La différence, c'est que le président de l'époque n'est pas le même. Le président de l'époque était quelqu'un qui était capable de socialiser parce qu'une des choses qui était la force de M. Mulroney, c'est un Irlandais. Il savait socialiser, il savait s'amuser, et puis il savait comment fêter avec le président américain de l'époque. Tandis qu'aujourd'hui, M. Trump, c'est pas le même style. C'est un type qui est un bagarreur, qui aime négocier, qui aime ça écraser. Donc, c'est un autre style. Donc, c'est pour ça que Mark Carney joue le jeu qu'il doit jouer, et il fait bien de jouer ce jeu-là. Parce que si tu veux jouer gros, ben, tu n'auras pas le poids pour être capable de faire face aux Américains. Donc, il travaille le système, travaille la politique, travaille les ententes, puis il essaie de faire des compromis sur ce qui est possible, tout en ayant ce qu'il recherche vraiment, un système qui va être unifié sur la question des tarifs. Puis c'est ça la force de Carney. Le problème, il ne faut pas arriver à ajouter de l'eau sur le feu, de l'huile sur le feu pour créer que peut-être le gars va toujours être déçu, puis il nous envoie promener parce qu'il peut le faire, il n'y a pas de problème.
Alors, en s'assoyant, on devient plus fort face à Trump, on devient plus mature. C'est ce qu'il faut voir comme différence au lieu de japper plus fort que lui. Mais là, on se retourne vers la Chine parce qu'on se dit, OK, là, ça fonctionne vraiment pas avec les États-Unis. À chaque fois, on se tire dans le pied. On voit comment le fait de développer des partenariats avec la Chine qui n'était pas nécessairement la plus intéressante depuis quelques années.
Non, parce que ce qu'on oublie, là, quand on a créé l'OMC, c'était pour essayer de libéraliser le commerce. On a permis au début des années 90 d'ouvrir le marché de l'OMC à la Chine pour qu'elle ne soit pas tenue à toutes ces normes-là puis qu'elle soit capable d'aller chercher la clause de la nation la plus favorisée. Donc, on a été chercher des mécanismes qui ont aidé la Chine à devenir ce qu'elle est aujourd'hui.
Quand vous parlez de l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Hein? C'est juste pour le placer pour les auditeurs.
C'est ça. Absolument, madame. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la Chine, aujourd'hui, elle a été chercher 56 des 59 métaux les plus précieux au monde et elle domine ces marchés-là pour faire la nouvelle technologie. Et ce qu'on voit apparaître, c'est qu'ils font énormément de robots, énormément de systèmes tout informatisés pour être capables de remplacer la main-d'œuvre. Sont encore plus performants et font encore plus de revenus à des coûts beaucoup plus bas. C'est pour ça que, par exemple, les voitures chinoises, celles qu'on voit apparaître là, sur les voitures électriques, sont à des prix tellement ridicules par rapport à ce que nous on produit, parce qu'il n'y a plus de ressources humaines. Ce sont des machines et des robots qui font tout cela. Et le président de Ford a justement fait un discours là-dessus la semaine passée, indiquant qu'on est tellement en retard par rapport à la technologie que vivent les Chinois, que si on ne bouge pas rapidement, on va perdre le dessus sur ce qu'on contrôle d'autres comme société. Donc, la Chine essaie de dominer le monde commercial à travers les exportations, mais aussi maîtriser toute la péninsule de l'Asie du Sud-Est, là où est-ce qu'est M. Carney actuellement. Donc, ce qui fait en sorte qu'il faut faire attention de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, mais de travailler à gauche, pas à droite. Pendant 10 années, moi, j'enseignais en Chine les cours de finance. pour être capable de s'appeler les CFA. C'est la plus haute désignation qu'on a en finance dans le monde. C'est une désignation américaine. Bien, les Chinois, là, c'était tout organisé, tout structuré. Les étudiants arrivaient, puis ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire, pourquoi ils devaient faire ça, puis où est-ce qu'ils s'en allaient. C'était tout organisé parce qu'eux autres, dans leur tête, c'est déjà planifié qu'ils voulaient dominer les secteurs économiques, financiers et technologiques depuis plus de 30 ans. Donc, c'est pas une nouveauté. C'est juste que nous, on ne l'a pas vu venir, on ne s'est pas préparé de sorte qu'aujourd'hui, bien, on voit la différence dans ce qui se passe dans certains milieux économiques et financiers, dont ce que fait la Chine.
Monsieur Levasseur, on se prend un engagement, nous deux, avec Pascal, ça okay. va, nous trois. On va se faire un micro la semaine prochaine sur votre expérience chinoise. Je veux en savoir plus là-dessus. Okay. Je veux savoir comment la Chine s'est préparée puis pourquoi on est rendu aussi dépendant d'eux.
Puis, c'est aussi très important d'ajouter.
Allez-y donc.
Comment la Chine est allée chercher les cerveaux étrangers pour se bâtir?
Parfait, on fait ça la semaine prochaine. Je sais que le côté chinois toujours intéressé, Pascal, c'est vous. Et là, j'ai vu les yeux ouvrir grands comme le studio de radio, mais j'ai dit, on peut pas régler ça en 3 minutes en non. fin d'émission. Donc, on refait ça la semaine prochaine. C'est ça va, monsieur Levasseur?
Excellent, on se reparle là-dessus.
Excellent, puis je retiens une chose, c'est que Brian Mulroney puis Ronald Reagan, finalement, ils ont signé cette entente-là autour d'une bière à taverne.
Ah, monsieur, c'est pire que ça, ils chantaient ensemble. C'est ça qu'ils chantaient des chansons irlandaises.
Ah, j'adore ce genre de son-là, on va en parler aussi dans notre prochain micro.
D'accord, au revoir.
Merci, M. Levasseur. Au revoir. Gilles Levasseur est professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa. Il a déjà participé à la signature d'une entente Canada-États-Unis, une entente économique. Il a déjà enseigné finance en Chine. Faut reparler à cet homme-là.
Oui, moi, ça, là, je trouve que si vous pensez que ce n'est pas d'actualité, on est encore plus dans l'actualité que ce dont on vient de discuter.
C'est clair. Pascal Cévé, il y a plein de partisans de football à Québec présentement qui sont heureux parce qu'écoute bien ça. He's throwing for the end zone and back there the catch is made. Keyshawn Booty has six. Tu sais, dans le temps, il y avait plein de monde avec le numéro 12 de Tom Brady.
Oui.
Ça envahissait la ville de Québec. Mais là, savais-tu que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont 5 victoires consécutives?
Mais je suis vraiment surprise sur cette équipe-là qui était, on s'entend-tu, en reconstruction totale.
Ben,
on se demandait, c'était-tu Brady ou Belichick, le cerveau de l'affaire? Puis on avait vu un Belichick un peu s'effondrer dans les dernières années, avoir de la difficulté à piloter l'équipe. On n'est pas là, là en début de saison.
Là, c'est Mike Vrabel, l'ancien secondaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui a été entraîneur à Tennessee également. Un gagnant du Super Bowl, de plusieurs Super Bowls avec Tom Brady qui est rendu l'entraîneur.
Il fait-tu la différence, tu penses, ou c'est
juste
l'arrivée
d'un défensivement, les Patriots jouent vraiment mieux. C'est un maître défensif.
C'est pas la chance du débutant à l'intérieur des Pats.
Ouais. Et là, Drake May, qui a été le 3e choix du repêchage il y a de ça 2 ans, derrière Caleb Williams, derrière Jaden Daniels, bien, déjà 15 passes de toucher depuis le début de la saison, seulement 3 interceptions et 2026 verges. Donc, bref, les partisans des Pats recommencent à rêver, Pascal Cévé. Les gens trippent là-bas.
C'est une super belle saison de football.
Ah, oui.
Moi, ceux qui me font triper par-dessus tout, étrangement, c'est les Lions.
Oui, les Lions qui jouent très bien offensivement. Est-ce qu'on va vivre ces belles émotions-là ce soir, Pascal?
Ben, j'ose croire.
Regarde. Tout ça.
J'ose croire.
Les Jays sont à visite à Los Angeles pour affronter les Dodgers. 3e match de la série, c'est à 20h. Le vétéran de 41 ans, Max Scherzer, sera sur la butte pour les Jays. Scherzer a déjà gagné la série mondiale avec les Nationals de Washington.
T'as-tu vu le gérant des Dodgers qui s'est mis un peu à dos le gouvernement canadien?
Hey non, parle-moi donc de
ça. Il a critiqué à tort l'entraîneur-chef des Dodgers, Dave Roberts, qui n'a pas trop apprécié le voyage de retour vers Los Angeles en fin de semaine. Son équipe a été soumise, vous savez, à de longs délais, puis lui a décidé qu'il en parlait. Fait que c'est plus qu'un match de baseball ce soir. On va dire une affaire politique là-dedans.
Mais hein, c'est le Canada contre les États-Unis. Donald Trump ne veut plus parler à notre premier ministre, mais nous autres, on va vous abattre à coups de circuit.
On va essayer ça, voir si on va faire comme la Coupe des Nations.
Go Canada, go! Pascal, on se parle demain à midi?
Sans faute.
Toujours un plaisir de faire de la radio avec toi. C'est le retour de Gravel qui suit avec Denis, Véro et Audrey. Par la suite, Marceau du soir. Et ne manquez pas le podcast Classe à part avec Sylvain dans cause à compter de 19h. Merci d'avoir été sur nos ondes. À demain, guys!